100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, bon dia. Cette île portugaise au large du Maroc lui a donné son nom, le Madère. Sa production est d'à peine 4 millions de litres par an, mais son nectar très racé, qui obéit à un processus de fabrication complexe, s'exporte à 80% dans le monde entier et plus particulièrement en France. Cépage portugais, vinification dans de grandes maisons d'origine anglaise, le Madère échappe pourtant aux petits viticulteurs de l'île qui ne peuvent plus le produire. Le reportage de Frédéric Lebel.
Il faut grimper pour atteindre les vignes en terrasse de Duarte Caldeira. D'un côté la mer, de l'autre la montagne. Le paysage est sublime, mais être viticulteur sur l'île est un combat.
On a beaucoup de problèmes pour cultiver la vigne sur l'île de Madère. Tout d'abord, nos vignes se trouvent tout près de la côte et de la mer. Et le vent, chargé en sel marin, vient brûler les feuilles, mais aussi les fruits. Un autre problème, c'est la montagne, juste là derrière. Parfois, il y a des roches qui tombent, mais il peut y avoir aussi des glissements de terrain. Ça peut détruire nos vignes, et puis l'irrigation est complexe, sans compter que les terrains en terrasse ne sont pas faciles d'accès. C'est impossible de travailler avec une machine, on ne peut s'y rendre qu'à pied.
En moyenne, les exploitations ne font pas plus de 0,3 hectares perchés sur des terrasses soutenues par des murs en pierre. Le raisin est cueilli à la main, et pour les vendanges, Duarte Caldeira emploie 11 personnes. Le vin de table qu'il produit est donc cher. Dans sa cave familiale, Duarte garde quelques 1000 bouteilles de vin de Madère pour sa consommation personnelle. Le Madère, un vin à la fois fortifié et chauffé, donc difficile à produire en quantité pour un petit propriétaire comme lui. D'ailleurs, le gouvernement régional a passé il y a un an et demi une loi qui interdit aux petits agriculteurs de commercialiser leur vin de Madère.
Ici, le gouvernement protège les grands. Aujourd'hui, pour un petit producteur comme nous, c'est très difficile de faire du vin de Madère. Voire impossible. C'est dur parce qu'on nous impose une quantité minimum de production de 70 000 litres, ce qui veut dire qu'il faudrait récolter entre 70 et 80 tonnes de raisins. En plus, il vous faut de grandes installations, des équipements qui coûtent au bas mot un demi-million d'euros.
Les grandes dont parle Duarte Caldeira, ce sont les prestigieuses maisons tournées vers l'exportation. Blandis, fondée il y a plus de 200 ans par une famille anglaise du Dorset et de celle-là. Elle achète ses raisins auprès de 600 petits viticulteurs. Dans son chai du centre de la ville de Funchal, on retrouve Ricardo Tavares, son directeur commercial.
Donc on va rentrer par le site Warin, travailler nos tonneliers. On a toujours 4 tonneliers qui travaillent toute la journée pour la maison. En fait, le vin de Madère fait son élevage en barrique, toujours. Le bois est toujours usagé. On ne veut pas du bois nouveau parce qu'il va trop marquer le vin avec des notes de la vanille qu'on souhaite ne pas avoir. Donc pour nous, le fût est un filtre naturel qu'on utilise pour mener le vin dans la direction qu'on souhaite faire.
De vieux tonneaux dont le bois de chêne laisse passer l'oxygène, une fermentation stoppée par l'adjonction d'alcool pur et surtout un long chauffage. Le Madère a une histoire qui remonte à la colonisation portugaise et une fabrication singulière.
Madère est le contraire de tout ce qui reste pour tous les autres vins. Les autres vins, on les garde dans des conditions froides, on ne l'expose pas à l'oxygène. À Madère, on fait exactement le contraire. Nos vins sont exposés à l'oxygène, ils sont exposés dans les combles, il fait très chaud, et ce sont des vins qui sont toujours en contact avec de l'oxygène et du bois. Et c'est ces trois critères-là qui mènent donc le vin dans la direction qu'on souhaite avoir et qui font le Madère.
Si la France est le premier client, toutes marques confondues, des vins de Madère, avec un quart des ventes, le produit n'a pas bonne presse dans l'Hexagone. Ne dit-on pas d'un vin qu'il est madérisé lorsqu'il est trop oxydé? Il y a du travail pour le service marketing.
Le Madère a une image un peu péjorative associée à la sauce Madère, à la culinaire. C'était Escoffier qui a installé la sauce Madère comme un produit d'appel pour le produit. Ça reste d'ailleurs le plus grand marché pour les vins de Madère en France. Il y a, disons, 20 ans qu'on est en train d'essayer d'échanger cette image, mais ça va prendre du temps.
Dans la cave et derrière de lourdes grilles, la maison Blandis garde une bouteille de 1755 et bien d'autres, un peu plus récentes. Le vin de Madère se conserve bien.
Et finalement, le coffre dont je vous ai parlé. Et là, vous voyez, 1915, 1963, 1914, 1882, 1958. Donc il y a plusieurs millésimes. Et donc, on a une maison qui vraiment a toujours eu cette vue à long terme et qui souhaite garder donc ces vieilles perles pour l'avenir.
Sac, demi-sec, demi-doux ou doux, la gamme semble aussi longue que les années de conservation.
Le reportage de Frédéric Lebel que l'on retrouve. Alors Frédéric, on l'entendait, la production du vin de Madère est vraiment concentrée entre les mains des grands négociants de l'île.
Oui, tout à fait. Il y a une petite dizaine de négociants, dont quelques grandes marques comme Blandis, Enriquez Enriquez, Justinios ou Barbeto. 87% de la production de l'île sort de ces grandes maisons et le vin de Madère est vendu à 80% en Europe. On a visité le chai le plus prestigieux et traditionnel de Blandis, où le vin est chauffé et vieilli naturellement dans un grenier en fût de chêne. Mais il y a toute une autre production majoritaire où le vin est chauffé dans des cuves en inox à 45 degrés et le processus de vinification ne prend pas des années, mais 3 mois. Et c'est ce qu'on appelle l'estouffagem.
Alors en ce qui concerne la Loire régionale qu'on évoquait tout à l'heure, qui ne permet pas aux petits producteurs de produire du vin de Madère, est-ce qu'elle a changé quelque chose depuis l'année dernière?
Disons que c'est une barrière légale. Dans les faits, les installations nécessaires au chauffage et à la production de ce vin ont toujours été un obstacle, tout comme l'importation d'alcool pur qui entre dans la fabrication du vin de Madère pour stopper la fermentation. Donc les petits producteurs revendent majoritairement leurs raisins aux grandes maisons ou bien ils font du vin de table en quantité limitée comme Duarte Caldera. Ce vin de table coûte cher à produire et ne permet pas de répondre à la demande. L'île importe 5 millions de litres de vin, surtout en provenance d'Europe. Ce qu'expliquait Duarte Caldera, c'est que la taille des exploitations très morcelée en terrasse ne lui permet pas de rentabiliser sa production. Elle complique les aides européennes. Ce qu'il faudrait, dit-il, c'est procéder à un remembrement sur l'île.
Merci Frédéric. Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de l'Union Européenne. Reportage à retrouver en images sur notre site avec le diaporama de Pierre-René Worms. Au Monténégro aussi, on cultive du vin, le fameux Vranac, mais c'est une autre culture, celle de l'olive, qui est aujourd'hui menacée au sud du pays. Sur la côte adriatique en baie de Baldanos, des petits producteurs essaient de relancer une production artisanale en voie d'extinction, Laurent Génin.
Derrière la vieille ville d'Oulcigne, après les remparts qui ont abrité durant des siècles de redoutables pirates qui détroussaient les navires vénitiens, une fois dépassés les bâtiments de briques construits à la hâte pour accueillir les touristes estivaux, les milliers d'oliviers de la baie de Valdanos montent à l'assaut des premières montagnes du sud du Monténégro. Ici, l'olive a, durant des siècles, façonné l'histoire des hommes. Autrefois, on vivait, on se mariait, on mourait pour l'olive, mais la tradition est en train de se perdre, raconte Moarem Koulari, le dernier de la région à presser ses fruits avec des meules en pierre. Devenue zone militaire après la Seconde Guerre mondiale, Valdanos est l'une des dernières baies préservées de la côte monténégrine, mais elle est aujourd'hui menacée par de pharaoniques projets immobiliers et par la crise économique. Les petits producteurs locaux préfèrent souvent couper leurs oliviers pour vendre du bois et gagner quelques milliers d'euros plutôt que de produire de l'huile. Pourtant, les 10 000 oliviers d'Oulcigne appartiennent à une espèce autochtone, ce qui leur permet de résister à la bactérie responsable de la maladie de Pierce, qui décime depuis 2 ans les oliveraies du sud de l'Italie. Selon certaines études, les arbres les plus anciens pourraient ainsi avoir plus de 2000 ans, un patrimoine exceptionnel, une richesse qui, bien utilisée, pourrait peut-être permettre de relancer l'économie du sud du Monténégro.
Des richesses, l'Italie en a à revendre et c'est d'ailleurs ce que le pays est en train de faire. Pour renflouer les caisses, l'État a décidé de se séparer de ses biens publics, environ 200. Les offres affluent du monde entier, Cécile Debarge.
Sur le site internet dédié à l'opération Investir en Italie, on passe en un clic du monastère des Pères Réformateurs niché sur les montagnes du centre de la Sicile à la splendeur déchue de l'hôtel Riviera de Messine. Ils font partie des 65 nouveaux biens ajoutés à la liste déjà longue du patrimoine de l'État italien qui cherche des investisseurs, notamment étrangers. Le principe est le suivant. L'investisseur doit proposer un projet pour requalifier ou valoriser un bien proposé par l'État et faire une offre. Si son projet est accepté, il en obtient la concession pour un maximum de 50 ans. Des biens du domaine public qui représentent au total près de 1,6 milliard d'euros, dont une bonne partie en Sicile, où les investisseurs sont amenés à développer le tourisme et l'hôtellerie dans une trentaine de lieux insolites et laissés plus ou moins à l'abandon, comme cette abbaye romane du XIIe siècle située sur les flancs de l'Etna. Et s'il est un endroit qui inspire les investisseurs, ce sont les phares. 39 propositions sont parvenues pour 11 phares situés dans toute l'Italie, avec de nombreux projets pour les transformer en restaurants. 4 d'entre eux sont situés en Sicile, à Augusta, Syracuse et sur les îles de Levanzo et Ustica, alors que le phare de Vulcano, l'une des îles éoliennes, a déjà trouvé preneur. La mairie de la ville va le transformer en musée.
La défense des droits de l'homme était au cœur du travail du Parlement européen en ce début de semaine. Pour l'occasion, 10 anciens lauréats du prix Sakharov étaient invités à Bruxelles. Ce prix décerné chaque année par les eurodéputés récompense des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Johanna Hochstein a assisté à la rencontre de ce réseau des prix Sakharov mis en place en 2008.
Avec autant d'invités exceptionnels sous le même toit, il fallait marquer l'événement. C'est donc le moment de la photo de famille. C'est surtout l'occasion pour lancer un nouvel appel à libérer le dernier lauréat du prix Sakharov, Raif Badawi, le blogueur saoudien qui croupit en prison depuis 4 ans après avoir été arrêté pour insulte à l'islam. Tous se rassemblent donc autour de sa femme, Ensaf Haidar, devenue sa porte-parole. Elle en profite pour lancer un appel aux Européens.
Le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que prochainement, il y aura le mois du Ramadan. À cette occasion, le roi a la possibilité de déclarer une grâce royale pour certains prisonniers. Je voudrais que le Parlement européen puisse saisir cette occasion et demander aux autorités saoudiennes de gracier mon mari et tous les autres prisonniers d'opinion en Arabie Saoudite.
Autre année, autre lauréat, autre message, c'est celui de Reporters sans frontières, distingué par le Parlement européen en 2005. En 10 ans, la liberté d'informer ne s'est guère améliorée, regrette Sophie Busson. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'ONG en avril dernier.
On note aujourd'hui une tendance extrêmement préoccupante concernant l'exercice de la profession de journaliste, comme par exemple en Syrie, avec la situation critique, plus de 55 journalistes qui ont été tués depuis le début du conflit, mais également beaucoup plus loin de la Syrie, des pays pour lesquels on ne pensait pas un jour avoir à s'inquiéter, comme la Pologne, où aujourd'hui on s'attaque à la liberté des médias. Et nous poussons et nous exhortons l'Union européenne à prendre sa responsabilité et l'ensemble des États membres à faire en sorte que quand un pays viole la liberté de la presse ou viole la liberté d'expression, il soit sanctionné.
Si le prix Sakharov a été créé il y a près de 30 ans, c'est pour récompenser le combat de ces hommes et de ces femmes qui défendent la liberté de l'esprit et qui se battent contre l'intolérance, le fanatisme et la haine. C'est le cas du dessinateur de presse et caricaturiste syrien, très critique à l'égard du président Bachar al-Assad. Ali Ferzat, c'est son nom, a été récompensé en 2011. Il est en train de dessiner sur le coin d'une table. Au premier plan, on voit un général. Sur sa casquette, il y a inscrit « dictateur ». Au second plan, son ombre, sur laquelle on peut lire « terroriste ».
Ce sont les dictatures qui créent les terroristes, parce que pour rester au pouvoir, ces dictatures doivent créer un adversaire pour convaincre les gens. Les dictateurs leur disent, soit vous m'acceptez au gouvernement, soit vous allez avoir les terroristes. Ils ont beaucoup de points en commun. Le régime a essayé de briser mes mains parce que je dessine. Daesh s'attaque aussi aux intellectuels, à la culture. On l'a vu quand ils ont détruit les œuvres d'art à Palmyre. Aujourd'hui, Daesh vend du pétrole au régime syrien. Ce sont des faits que l'ensemble du monde doit savoir. Le régime aide à financer l'État islamique.
Un message qu'Ali Ferzat a répété lors de cette conférence du réseau des lauréats du prix Sakharov. C'est la quatrième fois qu'a lieu une telle rencontre. Autour de la table, donc, 10 anciens lauréats, des députés européens et des représentants de la société civile. Au programme cette année, un débat sur ce que l'on appelle la diplomatie discrète, stratégie qu'emploient parfois les gouvernements à l'abri des regards du grand public pour faire avancer des situations. Pour ou contre, les avis sont partagés, comme constate Inga Rosinska, fonctionnaire au Parlement européen et organisatrice de l'événement.
Du côté des défenseurs des droits de l'homme, la réponse presque toujours, c'est qu'il vaut mieux avoir une action ouverte, publique, très forte, pour la défense des personnes qui sont en prison ou en difficulté. Et du côté du monde politique, parfois, on entend la réponse plus nuancée en disant l'action diplomatique est aussi importante. Et parfois, on peut avoir de meilleurs résultats si c'est une action qui est menée en silence, parce qu'on peut obtenir plus, même de la part des régimes qui ne sont pas démocratiques.
Nouveau rendez-vous important pour les défenseurs des droits de l'homme en décembre au Parlement européen à Strasbourg pour la remise du prix Sakharov
2016.
La tradition perdure depuis 1534 dans une bourgade espagnole de Castille. À Tordesillas, chaque mois de septembre, on lâche un taureau dans la bourgade et des centaines d'habitants, notamment des hommes à cheval, armés de lances, le torturent et le tuent. Mais le taureau ne sera plus mis à mort. Après des années d'intenses polémiques, la tradition a été interdite par le gouvernement régional. Pour en parler avec nous, François Musso. Alors François, si la mise à mort est interdite, la fête, elle, n'est pas supprimée.
Tout à fait, la fête du taureau la Vega n'est pas interdite en elle-même, elle continuera à exister, mais pour l'immense majorité de cette bourgade de 15 000 habitants, cette fête n'aura plus de sens, car la mise à mort constituait la colonne vertébrale, l'attrait principal. On pourra encore lâcher le taureau, mais on n'aura ni le droit de le tuer, ni même de le piquer avec une lance, même si bien sûr, comme partout en Espagne, il sera finalement sacrifié en privé à la fin des festivités. Aujourd'hui, la majorité des villageois sont en colère, révoltés contre cette décision qui, disent-ils, porte les stockades, vous l'avez dit, à une tradition moyenâgeuse.
Alors comment expliquer cette décision, d'autant que le gouvernement régional de Castille est conservateur, il est plutôt attaché à ce genre de fête, non ?
Mais en réalité, la tradition du taureau de la Vega était devenue un symbole ces dernières années. Chaque mois de septembre, l'affrontement était garanti et violent entre d'un côté les défenseurs des animaux, exigeant son interdiction, et les autochtones qui défendent son maintien tel quel. Le taureau de la Vega, c'était devenu le symbole de ce qui reste d'une Espagne sans pitié vis-à-vis des animaux. On compte environ 15 000 fêtes taurines dans le pays, mais celle-ci était et encore la plus cruelle de toutes. Face aux pressions, les autorités régionales n'avaient donc que deux options, ou bien la prohiber purement et simplement, ou bien la conserver, ce qu'ils ont fait, mais sans la mise à mort publique.
Alors lorsqu'on pense aux taureaux en Espagne, on pense à la corrida. Est-ce que cette interdiction peut avoir une conséquence sur la tauromachie ?
Oui et non. Non, parce qu'ici on distingue nettement entre d'un côté les fêtes populaires de village et la tauromachie en tant que telle. Mais oui, parce que cette interdiction intervient dans un contexte d'affaiblissement du monde taurin en général. Il y a moins de subventions, moins de public dans les arènes. Les jeunes générations sont plus sensibles aux souffrances de l'animal et des régions comme les Canaries ou la Catalogne ont interdit les corridas. Et puis, les défenseurs du droit des animaux sont de plus en plus actifs. Alors oui, le fait que le taureau ne sera plus tué avec férocité par les habitants de Tordesillas est le symptôme d'un changement d'époque.
Merci François Musso. Et c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 universel. L'Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission.